Chapitre 30. Un regard en arrière. Nous étions établis à Torquay, ma mère et moi, depuis 3 jours, lorsque je reçus la réponse de Madame Van Brandt à ma lettre. Après les premières phrases, m'informant que Van Brandt avait été mis en liberté, dans des circonstances qui faisaient douloureusement croire à quelques sacrifices inavoués de ma part à celle qu'il écrivait, la lettre poursuivait ainsi. Le nouvel emploi que M. Van Brandt va occuper nous assure l'aisance, sinon le superflu. Pour la première fois depuis le commencement de mes chagrins, j'ai devant moi la perspective d'une existence paisible au milieu d'étrangers auxquels ce qu'il y a de faux dans ma position demeurera caché, non pour moi, mais par égard pour mon enfant. Je ne dois ni je n'ose aspirer à davantage, c'est-à-dire au bonheur dont jouissent certaines femmes. Nous quittons l'Angleterre pour le continent demain matin de bonne heure. Vous dirai-je dans quelle partie de l'Europe se trouve ma nouvelle résidence? Non, vous pourriez m'écrire de nouveau et je pourrais vous répondre. L'unique et pauvre témoignage de reconnaissance que je puisse donner au bon ange de ma vie, c'est de l'aider à m'oublier. Quel droit ai-je de me cramponner à la place que j'ai usurpée dans votre estime? Un temps viendra où vous donnerez votre cœur à une femme plus digne de lui que moi. Laissez-moi disparaître de votre existence, sauf à titre de souvenir accidentel, lorsque vous songerez parfois aux jours à jamais disparus. De mon côté, je ne me trouverai pas sans quelque consolation lorsque moi aussi je jetterai un regard sur le passé. Je suis devenu meilleur depuis que je vous ai rencontré. Tant que je vivrai, je me le rappellerai toujours. Oui, l'influence que vous avez exercée sur moi, depuis le commencement jusqu'à la fin, a été salutaire. En admettant que j'ai eu tort, dans ma position, de vous aimer, et plus tard encore de vous l'avouer, pourtant mon amour a été innocent, et l'effort que j'ai fait pour le maîtriser a été au moins honnête. Mais à part cela, mon cœur me dit que je dois d'être meilleur à la sympathie qui nous a unis. Je puis vous avouer ce que je n'ai jamais encore admis, aujourd'hui que nous sommes largement séparés et qu'il y a si peu de chances que nous nous rencontrions jamais de nouveau. Toutes les fois que je me suis abandonné sans réserve à mes meilleurs instincts, ils ont toujours paru me pousser vers vous. Toutes les fois que mon esprit s'est trouvé le plus réellement en paix et que j'ai pu prier d'un cœur pur et pénitent, j'ai senti que quelques liens invisibles nous rapprochaient de plus en plus l'un de l'autre. Et, chose étrange à dire, cela m'est toujours arrivé, absolument comme les rêves, dans lesquels je vous ai vu lorsque j'étais séparée de Van Brandt. Alors, en pensant à vous et en rêvant, il m'a toujours semblé que je vous connaissais beaucoup plus intimement que lorsque nous nous trouvions face à face. Je me demande s'il existe réellement quelque chose comme une existence antérieure. Avons-nous été jadis de constants compagnons dans quelque autre sphère, il y a des milliers d'années? Ce sont là d'oiseuses conjectures. Qu'il me suffise de vous rappeler que j'ai gagné à vous connaître sans m'inquiéter du comment ni du pourquoi. Adieu, mon bien-aimé bienfaiteur, mon seul ami. L'enfant vous envoie un baiser et la mère se dit votre reconnaissante et affectionnée, M. Van Brandt. Lorsque je lus d'abord ces lignes, elles rappelèrent de nouveau à ma mémoire, fort étrangement, à ce que je pensais alors, les prédictions de Dame d'Hermodée à l'époque de mon enfance. Les sympathies qui devaient, m'avait-elle annoncé, m'unir spirituellement à Marie, se trouvaient ici réalisées par une étrangère que j'avais rencontrée par hasard dans les dernières années de ma vie. Engagée sur cette voie, avançais-je plus loin, au moins d'un pas? Nul soupçon de la vérité ne se présenta même alors à mon esprit. La faute doit-elle en être imputée à ma lenteur de compréhension? Tout autre homme dans ma position aurait-il découvert ce que je ne pus apercevoir? Je remonte la chaîne des événements qui se déroulent dans ce récit et je me demande où trouver dans mon cas ou dans celui de tout autre homme la possibilité d'identifier l'enfant Marie d'Hermodée avec la femme Madame Van Brandt. Lorsque nous nous étions revus près de la rivière d'Écosse, nos visages avaient-ils gardé quelques traits capables de nous rappeler ceux de notre enfance? Le petit garçon et la petite fille étaient devenus, dans l'intervalle, un homme et une femme, et il n'existait en nous aucun signe extérieur visible du Georges et de la Marie des anciens jours. Déguisés l'un pour l'autre par nos visages, nous l'étions également par nos noms. Son faux mariage avait changé son nom patronymique. Le testament de mon beau-père avait changé le mien. Son prénom était le plus commun de tous les noms de femmes, et le mien était loin d'être remarquable parmi ceux des hommes. En ce qui touche les diverses occasions dans lesquelles nous nous étions rencontrés, nous étions-nous vus assez souvent pour arriver, chacun de notre côté, à nous reconnaître dans le cours de notre conversation? Nous nous étions rencontrés 4 fois en tout, 1 fois sur le pont, 1 fois à Édimbourg et 2 fois à Londres. Dans chacune de ces occasions, les inquiétudes et les intérêts absorbants du moment avaient occupé son esprit et le mien et inspiré ses paroles et les miennes. Quand les événements qui nous avaient mis en rapport nous avaient-ils laissé assez de loisirs et de tranquillité pour nous permettre de jeter paresseusement un regard en arrière sur nos existences et de comparer tranquillement les souvenirs de notre enfance? Jamais, du commencement à la fin, le cours des événements nous avait éloigné de plus en plus de tout résultat pouvant nous conduire même à un soupçon de la vérité. En m'écrivant lors de son départ d'Angleterre, et moi en lisant sa lettre, nous ne pouvions, l'un et l'autre, que croire que nous nous étions vus pour la première fois près de la rivière et que nos destinées divergentes avaient fini par nous séparer pour toujours. En relisant plus tard sa lettre d'adieu à la clarté de ma mûre expérience, je constate combien la foi de Dame d'Hermodé dans la pureté du lien qui nous unissait comme âmes sœurs s'est trouvée remarquablement justifiée par les résultats. Ce n'était que lorsque ma Marie inconnue était séparée de Van Brandt, en d'autres termes, ce n'était que lorsqu'elle était un pur esprit, qu'elle ressentait le caractère purifiant de mon influence sur sa vie et que son apparition communiquait avec moi sous sa visible et parfaite image. De mon côté, quand rêvais-je d'elle comme en Écosse ou quand éprouvais-je le mystérieux avertissement de sa présence à mes moments de veille comme à Shetland? Toujours, lorsque mon cœur s'ouvrait le plus tendrement pour elle et pour les autres, toujours lorsque mon esprit était affranchi des doutes amers, des aspirations égoïstes qui dégradent en nous la divinité. Alors, et seulement alors, ma sympathie pour elle possédait la perfection qui résiste au hasard et au changement, aux déceptions et aux tentations de la vie humaine.